Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier podcast du Smart Training Podcast, un podcast qui aura pour objectif de développer sur différents thèmes autour de la performance sportive, la prépa physique, la prépa mentale, la nutrition, l'optimisation de la performance dans sa globalité, l'entraînement, mais également le sommeil, la réhabilitation, en tout cas plein de thèmes qui moi me passionnent et qui j'espère vous passionneront autant que moi via ces différents podcasts. On pourra également parler de motivation, de mindset, d'entrepreneuriat, d'autres thèmes un peu plus éloignés mais que je trouve tout aussi importants à développer et qui pour moi font sens dans le cadre du Smart Training Podcast. Dans ce podcast, il y aura deux types de podcasts. Un premier dans lequel je serai en one-to-one et dans lequel je vous exposerai mes pensées du jour avec mon prisme et différents arguments qui j'espère pourront vous permettre d'évoluer et par la suite échanger avec moi également. Et un autre type de podcast, un peu plus profond si je puis dire, dans lequel j'interviewerai des personnes, des professionnels du sport, des entraîneurs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, des médecins pourquoi pas, des sportifs, en tout cas tout un panel de personnages qui moi me paraissent hyper inspirants et en tout cas qui pourront nous faire évoluer tous ensemble vers un état dans lequel on sera enrichi et plus éduqué si je puis dire autour des différents sujets qu'on abordera. Moi, c'est le podcast, c'est un format que j'écoute depuis 3-4 ans et qui me passionne vraiment parce que je pense que c'est un format hyper facile d'utilisation qui permet à chacun de, que ce soit en allant au travail, que ce soit en faisant son sport, le soir chez soi ou dans n'importe quel contexte, nous permet de nous enrichir et d'une manière assez facile, nous éduquer et développer nos compétences. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est le futur, entre guillemets, de la formation avec tout ce qui est webinaire, travail en ligne. Donc c'est vraiment un créneau sur lequel j'ai envie de me placer et de développer moi-même mes compétences. Je vous souhaite une bonne écoute. Tout de suite, on part sur le premier épisode avec pour terme les surfaces instables, intérêts et limites. Donc on se retrouve tout de suite pour ce premier épisode. Cet épisode aura donc pour thème les surfaces instables. Petit disclaimer, ce podcast va être réalisé sans cut, sans post-prod. Le but, c'est pas que je doive couper derrière et passer un temps fou à monter le podcast parce que tout simplement, j'ai pas le temps et que c'est pas mon souhait. J'ai envie de faire un truc un peu naturel, un peu one shot dans lequel je partage mes pensées, des pensées du jour, en tout cas mes opinions. Donc tous ceux qui sont sévères sur le vocabulaire, à certains moments bouchez-vous les oreilles parce que ça pourra piquer un petit peu dans ce podcast. Maintenant je vais essayer de faire les choses bien quand même, donc vous inquiétez pas, je vais essayer de parler français de manière la plus correcte possible. Donc aujourd'hui on va parler de la proprioception slash les surfaces instables. Je dis proprioception directement parce que on va rentrer dans le cœur du sujet, on va pas perdre de temps. Surface instable, j'entends par ça le travail sur Bosu, le travail sur WAF, le travail autour de toutes ces surfaces instables qui pullulent depuis des années dans les cabinets de physio, chez les prépas physiques dans différents sports, notamment les sports co, avec pour objectif de réduire le risque de blessure type travail de prophylaxie, même si aujourd'hui, bien que ce soit un concept hyper pertinent, on se rend bien compte qu'on n'évite pas les blessures dans le sport, et notamment dans le sport de haut niveau, mais qu'on réduit peut-être la gravité des blessures lorsqu'elles arrivent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand un athlète de 110 kg saute et tombe sur une cheville d'un partenaire ou d'un adversaire, et que sa cheville part en inversion, peu importe, dans des degrés d'amplitude hyper élevée, à une vitesse hyper élevée, avec des forces très élevées, on ne va pas réussir à empêcher la blessure. Par contre, on va peut-être réussir à faire en sorte que ce soit un stade 2 plutôt qu'un stade 3 ou ce genre de choses permettant à l'athlète de revenir plus vite derrière. Si on doit maintenant parler concrètement du sujet du jour, les surfaces instables, ça a été vachement utilisé, c'est encore utilisé. C'est pourquoi je pense que c'est important d'en parler autour et je vois que de plus en plus de personnes en parlent, donc c'est cool. Tout ce que je vais vous dire, moi, ça vient de mes différentes recherches, de ma compréhension qui évolue au jour le jour de tous ces éléments. Et également de mon empirisme, c'est-à-dire des expériences que j'en ai fait, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé également moi-même, même si malgré mon jeune âge, ça peut paraître un peu prétentieux. Donc, pour ce qui est des surfaces instables, on parle souvent de proprioception sans vraiment savoir ce que c'est la proprioception. La proprioception, c'est donc la capacité consciente ou inconsciente du corps à se retrouver dans l'espace. Donc c'est quelque chose de très général. On va dire que quand on se met sur un bosu, on fait de la proprioception. Certes, on fait de la proprioception, mais c'est pas l'objectif premier. En tout cas, c'est pas la cible première quand on se met sur un bosu. Quand on se met sur un bosu, on va travailler son équilibre. Alors, dans la proprioception, on va retrouver ce genre de travail, mais on va aussi retrouver du squat, du haut fermé. On va retrouver tout simplement de s'asseoir sur une chaise. Toutes les activités quotidiennes vont nécessiter de la proprioception. Et c'est un faire un raccourci beaucoup trop rapide que de dire que ce travail-là sur surface instable va être de la proprioception. Aujourd'hui, quand tu vas sur un bosu, tu travailles ton équilibre. Maintenant, est-ce que dans le cadre d'une réhabilitation, ce qui est souvent le cas, utiliser des bosu pour développer son équilibre, c'est la priorité? Et est-ce que ça va cibler vraiment les besoins de l'articulation qui a été lésée au moment d'une blessure? Je pose la question, mais j'ai la réponse. C'est évident que c'est non et que c'est pas ce sur quoi on devrait s'attarder. Surtout que dans le cadre d'un sportif, on n'a pas du temps, on n'a pas ouais, du temps, on en a, mais pas tant que ça. Et donc, on va essayer de lui faire perdre le moins de temps possible dans sa réhabilitation et aller sur les cibles prioritaires. Donc déjà, de base, il y a un problème de nomenclature autour du travail sur surface instable qu'on va appeler de proprioception parce qu'on n'est pas dans le vrai, c'est pas les termes. Même si on va me dire oui, c'est que des mots, ça reste quand même important, je pense, de revenir là-dessus en premier lieu. Ensuite, il y a différents arguments que je vais avancer pour mettre en avant le fait que les surfaces instables, ce n'est pas quelque chose qui est forcément pertinent. Quand on analyse bien, pardon, comment une blessure se produit, on se rend compte que la blessure, c'est un élément qui arrive quand la charge qui est mise sur vos tissus dépasse sa capacité. Donc en fait, c'est tout simplement, je mets trop d'un coup ou à long terme sur un tissu. Conjonctif, articulaire, musculaire, bref, ce que vous voulez. Et mon corps n'a pas la capacité de résister à ce travail-là. Ce qu'il en résulte, c'est donc une blessure plus ou moins grave et plus ou moins pénalisante pour la suite de saison, si c'est un sport collectif, ou en tout cas pour la suite du sportif. Comment analyser ça? C'est très simple. Les blessures, elles se produisent à des hauts niveaux de force, de vitesse et d'amplitude. Si on prend une courbe, c'est vraiment sur ces hauts niveaux de force, de vitesse et d'amplitude qu'on se blesse. C'est pas quand on va rester sur des niveaux de force qui sont réduits à des vitesses basses et dans des amplitudes faibles où on a une maîtrise totale. Quand on va se faire une entorse, on se rend bien compte que c'est quand la cheville se tord dans des degrés élevés qu'on va se faire mal. Et quand, là, si on fait une analyse un peu plus pointue de la blessure, sur une entorse, on va être sur de l'excentrique hyper rapide avec des niveaux de force et de vitesse hyper élevés et on va dans des amplitudes où on n'a pas le contrôle. Donc en fait, si on analyse ça, on se dit, OK, comment je peux faire pour réussir à pas me faire mal? C'est sortir de ces degrés qu'on va utiliser sur un bosu, par exemple, parce qu'on reste dans des degrés hyper succincts, on est tout le temps en train de se rééquilibrer, et sortir de ce travail-là pour aller chercher à travailler dans des degrés d'amplitude bien plus élevés qui sont spécifiques à la blessure. En fait, le travail post-blessure doit être spécifique. On renforce là où on a été faible pour pouvoir éviter de retourner dans ce processus de blessure. En tout cas, d'être plus fort dans ce processus de blessure. Un autre élément qui est hyper important à avoir à l'esprit, c'est que les surfaces instables ne permettent pas de développer des niveaux de force élevés. Si vous avez suivi ce que j'ai dit au préalable, les blessures, ça se passe à des niveaux de force très élevés. Donc si derrière, on va aller travailler sur des surfaces instables et qu'on ne peut pas produire des niveaux de force élevés, il y a une dissonance, il y a un manque de logique dans le processus de réhab. Souvent en plus, on va aller travailler sur une surface instable alors que c'est absolument pas spécifique et que la première chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on est en réhabilitation, c'est la loi de la spécificité. Et si on n'a pas le respect de cette loi, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, quand tu vas sur une surface instable en réhabilitation, c'est pas ce que tu vas rencontrer sur le terrain. Il y a très 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 peu de sports, ou alors voilà, ça va être les quelques exceptions qui confirmeront la règle. Où on va travailler sur surface instable. Je pense au sport collectif. Le sol n'est pas une surface instable. Un pied, c'est pas une surface instable. Et travailler sur surface instable, pardon, ça n'a aucun transfert. On est spécifique là où on est spécifique. Ça veut dire que travailler sur Bosu, tu seras meilleur sur Bosu. C'est tout. Tu seras pas meilleur sur le terrain. C'est un peu la même histoire qu'avec les échelles de rythme. Ça pourrait être aussi le thème d'un podcast. Mais c'est le même process. C'est pas parce que tu es vivace sur des échelles de rythme que tu es efficace et vivace sur le terrain. C'est évident. Maintenant, si on va un peu plus loin, donc si vous l'avez compris, il y a déjà deux gros arguments qui montrent que c'est pas forcément pertinent d'aller sur des surfaces instables pour travailler. On reste sur des amplitudes moyennes avec des productions de force qui sont basses et on ne peut pas travailler de manière optimale. Pour ceux qui vont me dire oui, on peut travailler en force quand même, une simple image, quand tu fais un développé couché sur un banc et que tu fais ton max, prends la charge que tu développes, puis ensuite fais un développé couché sur un bosu, tu verras que la charge ne sera pas la même, si tu veux être sûr de l'argument que j'avance ici. Ensuite, un autre argument qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que par ce travail sur surface adaptable, on ne respecte pas du tout l'idée de renforcement progressif tissulaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour renforcer un tissu, il faut mettre une tension mécanique sur ce tissu. Or, pour cela, il faut un temps sous tension qui est assez important. Aujourd'hui, quand tu vas te mettre sur un bosu, imagine que je me mets sur un bosu, je vais tout le temps être en train de me rééquilibrer et sortir des degrés de flexion dans lesquels je suis. Flexion, je dis flexion, mais des degrés, des amplitudes dans lesquelles je vais aller, parce qu'il faut que je me rééquilibre. Donc en fait, on ne met pas de tension mécanique, en tout cas, on ne met pas un temps sous tension mécanique suffisant pour permettre des adaptations tissulaires. Or, c'est ces adaptations-là qui vont permettre derrière de renforcer la structure et qui vont potentiellement aider l'articulation, bah, déjà à se réhabiliter, mais surtout à ne pas retourner dans des situations défavorables dans lesquelles la balance entre charge et capacité est défavorable pour la capacité. Ça, c'est un élément qui est hyper important et qui devrait faire sens pour tout le monde. Donc voilà les différents arguments que je souhaitais mettre en avant autour du travail sur surface instable et que je souhaitais donc exposer pour vous faire comprendre pourquoi, bah, selon moi et selon maintenant aujourd'hui quand même une bonne majorité des personnes qui travaillent dans ce domaine, c'est pas pertinent d'aller sur du travail en surface instable dans le cadre d'une réhabilitation ou dans le cadre d'un développement en faveur de la réduction du risque de blessure. Pour faire réellement un travail de prophylaxie, même si j'aime pas trop ce mot, mais pour faire réellement ce type de travail, il faut chercher à aller dans des demandes qui sont équivalentes ou supérieures à ce qu'on va pouvoir trouver. Alors supérieur, ça va être impossible parce que les degrés, la vitesse et la force qu'on va mettre sur par exemple un processus d'entorse est bien supérieure à ce qu'on va pouvoir demander au corps. Donc évidemment, on ne pourra pas préparer le corps finalement à un tel choc. Par contre, on peut essayer progressivement de mettre de plus en plus de tension et de mettre de plus en plus de contraintes sur l'articulation quand c'est articulaire pour pouvoir limiter la gravité d'une blessure et en tout cas préparer l'athlète parce qu'il y a aussi plein de fois où il va se retrouver face à des demandes un peu inférieures. Je pense à des simples petites torsions de cheville dans lesquelles bah, en final on pourra éviter tout temps d'arrêt pardon, si on a déjà préparé l'articulation à être résiliente, on va dire. Comment on peut faire cela? Il y a aujourd'hui beaucoup de techniques pour pouvoir renforcer l'articulation. Ce que moi je souhaite simplement vous mettre en avant, c'est le travail de mobilité, c'est-à-dire exprimer de la force dans des amplitudes élevées. Donc il y a un contrôle moteur à avoir, il y a une certaine notion de souplesse, mais il y a surtout une notion de force dans des amplitudes élevées. Après, cette force, elle aura différentes expressions. Au début, ce sera forcément pas de l'excentrique rapide parce que l'articulation sera pas prête, mais plus on va aller dans une logique de progression, plus il y aura potentiellement un travail d'excentrique rapide à mettre en place, pourquoi pas, associé à un travail de mobilité, forcément, pour amener l'articulation à être de plus en plus résiliente et de plus en plus forte face aux demandes qu'on va lui imposer. Pour ce qui est du travail sur bosu ou sur surface instable pour d'autres objectifs, je remets pas en cause l'intérêt, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'un athlète ait envie de se mettre sur un WAF avant un entraînement pour bon, stimuler son équilibre, stimuler son éveil, entre guillemets, même si je ne suis pas certain qu'il y ait des liens entre stimuler de cette manière-là le système nerveux, le système proprioceptif et derrière un vrai effet sur la performance. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'aspects psychologiques à prendre en compte et bah, un historique. Ce n'est pas en 2 jours qu'on va supprimer tout ce qui a été fait les 20 dernières années. Maintenant, je pense que c'est important d'en parler autour de soi, de faire passer le message pour éviter qu'on se retrouve avec des athlètes ou des entraîneurs qui utilisent cet outil pour le mauvais objectif, pardon. Le plus important, en tout cas à mon avis, quand on utilise un outil, c'est de savoir pourquoi on l'utilise et quelles sont les limites et les intérêts. Là, j'ai exposé plusieurs limites du travail sur coussin, ou en tout cas sur surface instable, dans un objectif de réhabilitation, de prévention des blessures. Il y a peut-être d'autres intérêts autour que le préparateur physique ou l'athlète pourrait exposer. Maintenant, pour avoir discuté avec plusieurs athlètes, plusieurs entraîneurs, souvent, quand on voit un WAF qui sort, c'est pas pour aller juste simplement faire un petit peu d'équilibre. C'est souvent avec un objectif de prévention des blessures. Et dans ce cadre-là, on est dans du bullshit total. Et malgré le fait que ça a été fait depuis longtemps, il faut savoir remettre les choses dans le bon sens et dire bah non, c'est pas possible. Et on n'est pas dans ce qui est fait, dans ce qui est pertinent. C'est évident que c'est beaucoup plus simple de se mettre sur un WOF que d'aller faire des pull and raise, d'aller faire des cars quotidiennes, d'aller faire de l'excentrique rapide parce que ça demande du travail, parce que ça demande de la souffrance pour l'athlète souvent. Mais à un moment, on n'a rien sans rien et il faut arrêter de se cacher. Quitte à rien faire de pertinent, autant pas aller acheter des sous, pardon, autant pas aller mettre des sous dans ce process-là et ne pas acheter ce type de matériel pour le mettre sur d'autres éléments qui seront bien plus pertinents dans une logique d'optimisation de la performance. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous sort un WAF et vous dit que c'est pour faire de la prévention de blessures et éviter les entorses, même s'il est champion olympique, permettez-vous de lui exposer certains éléments qui pourront peut-être lui permettre de se développer lui-même et de changer sa pratique pour vraiment optimiser sa pratique et son entraînement à long terme. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que ce podcast vous aura apporté des éléments de réponse sur pourquoi et intérêt et limites des différents outils en surface instable et que vous pourrez par la suite mieux travailler sans cet outil pour être plus efficient dans ce que vous proposerez. N'hésitez pas à partager le podcast, commenter si vous voulez échanger avec moi à ce sujet, liker, mais également donner de la force sur les différents réseaux sur lesquels vous pouvez écouter ce podcast en le notant avec la meilleure note possible et la moins bonne si jamais vous n'avez pas apprécié le podcast. Mais en tout cas, en interagissant avec moi, c'est vraiment ce qui, moi, va me permettre de m'enrichir et de continuer à développer ce podcast dans les semaines qui arrivent et dans les mois qui arrivent également. Merci pour votre écoute et à bientôt.